Et bienvenue sur CFM pour ce nouvel épisode des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Observer les chevaux ou les poneys bouger est une source de plaisir, mais pour un œil vigilant, notamment celui du soigneur ou du vétérinaire, leur façon de se déplacer n'est pas anodine et peut indiquer un problème. Je vous propose donc aujourd'hui de nous intéresser aux forces locomotrices qui sont à l'origine du déplacement et de l'équilibre des chevaux. Tout d'abord, rappelons quelques notions de base. La locomotion est définie comme, je cite, un mouvement ou la capacité de se déplacer d'un endroit à l'autre. Pour ce faire, les muscles, les os et les articulations vont être mis à contribution tout en étant gouvernés par le système nerveux central qui va générer le mouvement. À titre de rappel, le cheval possède environ 205 os, charnières des articulations, et donc de la locomotion, en synergie avec les muscles et les ligaments. Les muscles assurent le soutien du squelette et l'ensemble du corps, la puissance et l'endurance nécessaires à son mode de vie, ainsi qu'une grande amplitude dans ses possibilités de mouvement. Plusieurs tendons fondamentaux pour sa locomotion sont présents au niveau de la jambe et jusqu'aux phalanges. Le système nerveux est, lui, constitué de neurones, support de l'information réunis en nerfs entourés de cellules gliales. Ces dernières entourent les neurones en leur permettant de fonctionner. Elles les protègent, les nourrissent et participent à la communication entre eux. Maintenant que nous avons toutes ces informations en tête, nous pouvons nous pencher sur la locomotion du cheval. Comme vous le savez, il se déplace au pas, au trot et au galop. Chaque allure a ses propres caractéristiques, notamment la répétition des foulées qui la composent et qui varient en fonction de la vitesse du cheval. On peut diviser chaque foulée en deux temps, la phase d'appui, quand le pied est en contact avec le sol, et la phase de soutien, lorsque le pied est en suspension dans l'air. La phase d'appui peut elle-même être divisée en trois temps, l'amortissement, le soutènement et la propulsion. L'amortissement correspond au premier contact au sol et à son impact. Le soutènement se produit quand tout le poids du corps du cheval repose sur le pied, et la propulsion va permettre au cheval de bouger vers l'avant, l'énergie se déplaçant vers le haut des membres. Une foulée correspond donc à un cycle complet de mouvement d'un membre, comprenant la phase d'appui et la phase de soutien. Décomposons maintenant les allures. Le pas est une allure marchée à quatre temps égaux, un membre au moins est toujours posé au sol. Il n'y a donc pas de phase de suspension dans l'air. Le trot est une allure sautée à deux temps égaux et deux temps de suspension symétrique qui se caractérise par un posé des membres en diagonale. Diagonale gauche, c'est-à-dire postérieur droit, antérieur gauche, et diagonale droit, postérieur gauche, antérieur droit. Le galop moyen ou cantère est également une allure sautée, mais elle est composée de trois temps asymétriques avec une phase de suspension. Le galop de course ou galop allongé est une allure à quatre temps, sautée, asymétrique et basculée, c'est-à-dire que l'axe longitudinal du corps subit d'amples oscillations, dans lequel le deuxième temps du galop est dissocié en deux temps, chacun des pieds du cheval frappant successivement le sol. En liberté, le cheval préfère galoper à droite pour entrer dans une courbe à droite. S'il galope à droite dans une courbe à gauche, il changera probablement d'allure pour garder l'équilibre. Pour comprendre la locomotion, il nous faut faire un peu de physique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire cela le plus simplement possible. La locomotion est liée à l'expression des forces, celle de la gravité et de la force de réaction du sol. La force liée à la gravité attire tout corps vers le bas et c'est la force de réaction du sol qui va l'empêcher de s'enfoncer. Il s'agit de la troisième loi de Newton. Pour chaque action, il existe une réaction égale opposée. C'est ce que nous explique le professeur et vétérinaire Hilary Clayton. Je la cite « Le sabot du cheval exprime une pression vers le bas lorsqu'il touche le sol. » Le sol renvoie une pression équivalente et égale chaque fois, à chaque pas, que fait le cheval. En 2025, lors de la convention rassemblant les vétérinaires équins américains, elle a présenté ses recherches à ce sujet au cours d'une conférence. Elle nous explique que la force de réaction du sol s'exprime de trois manières différentes. Elle peut être verticale, longitudinale ou transversale. La force de réaction du sol verticale agit toujours vers le haut et combat la gravité. La force de réaction du sol longitudinale permet au cheval d'accélérer, de ralentir ou de maintenir sa vitesse. Et la force de réaction du sol transversale se manifeste d'un côté à l'autre du cheval pour lui permettre de tourner. Les forces de réaction du sol générées par les membres du cheval produisent les mouvements et les rotations du corps. Que le cheval marche, galope, saute ou fasse du dressage, tout est lié à la force de réaction du sol. Le mouvement vertical du corps généré par la force de réaction du sol provoque aussi des oscillations avec une pression sur le dos du cheval et une tension dans les rênes. L'équilibre du cheval nécessite de prendre en considération un autre élément associé à la force de réaction du sol. Il s'agit de ce qu'on appelle le centre d'inertie ou centre de masse, c'est-à-dire toute la substance contenue dans le corps du cheval. Ce centre d'inertie, donc, suit une trajectoire bien précise à chaque foulée, montant ou descendant en rythme avec le mouvement des membres. Ainsi, quand le cheval marche, son corps ne bouge pas beaucoup verticalement. Son garrot et sa croupe sont à leur hauteur maximale quand ses antérieurs et ses postérieurs sont à la verticale chaque fois que le pied entre en contact avec le sol et supporte son poids. Cependant, explique Hilary Clayton, les mouvements du centre d'inertie au trot suivent un schéma différent, car ils sont au plus haut au cours des phases de suspension, donc c'est quand le cheval ne touche pas le sol, et au plus bas au milieu des phases diagonales. On distingue deux oscillations par foulée au pas et au trot, mais seulement une au petit galop, au cours duquel le centre d'inertie est haut lors de la phase de suspension et bas au milieu. La vétérinaire constate que le point le plus bas de la position du centre d'inertie coïncide avec le pic vertical de la force de réaction du sol. La relation entre cette dernière et la position du corps, ajoute-t-elle, est importante pour comprendre les mouvements asymétriques de la nuque, du garrot et de la croupe chez les chevaux boiteux. Nous allons maintenant écouter Bruce Springsteen, Born to Run.
Sprung from cages on Highway 90.
Alors revenons à la locomotion du cheval. Lorsque notre corps ou celui du cheval bouge, quelle que soit l'allure, il est en état de déséquilibre permanent. Chaque pas à venir nous empêche ou l'empêche de tomber. L'équilibre de l'allure peut se maintenir grâce à l'interaction entre le centre d'inertie et je vais employer un terme compliqué qui va vous sembler barbare, le polygone de sustentation, c'est-à-dire la surface reliant l'ensemble des points d'appui. Je vous donne un exemple. Quand le cheval est immobile, il s'agit du rectangle formé par ses quatre sabots. Comment le cheval parvient-il à se maintenir en équilibre ? Pour le professeur Clayton, lorsque le centre d'inertie est au-dessus du polygone de sustentation, le cheval se trouve dans une position stable. Mais si le centre d'inertie se déplace à l'extérieur du polygone de sustentation, le cheval fera un pas afin que le centre d'inertie demeure dans l'équation. Une grande masse corporelle, un centre d'inertie bas positionné au centre du corps grâce à des membres relativement courts et une surface d'appui importante sont les caractéristiques qui permettent d'obtenir l'équilibre et la stabilité du cheval. Le cheval est capable de changer de direction facilement et efficacement. C'est ce qu'on appelle l'agilité. Quand un cheval va changer de direction, pour anticiper, il peut déplacer son poids à l'avance. Sa masse d'inertie se déplace vers le bord de sa surface d'appui, le cheval se déplaçant rapidement dans la direction voulue, plus facilement. Par exemple, dans le cas d'une course hippique, un pur sang qui se trouve dans les boîtes de départ se penche vers l'avant, prêt à accélérer, anticipant ainsi l'ouverture des boîtes. Lorsqu'un cheval tourne, il faut qu'une force de réaction du sol transversal pousse le corps de celui-ci sur le côté. Pour le faire le plus facilement possible, souligne le professeur Clayton, le cheval doit s'incliner dans le virage, tandis que ses membres exercent une poussée vers l'extérieur afin de créer une force de réaction tournante. Et de donner en exemple les chevaux de cutting, cette discipline d'équitation western née du travail dans les ranchs avec les bovins. Un bon cheval de cutting doit savoir anticiper afin d'isoler un veau ou un autre bovin au sein d'un troupeau et l'empêcher d'y retourner. Le professeur Clayton a démontré que les meilleurs chevaux de cutting tournent en s'appuyant sur le virage puis en poussant sur le côté, tandis que les moins performants commencent à tourner en décalant leurs membres sur le côté. Bien comprendre la mécanique du cheval est importante, comme le souligne la vétérinaire. Notre connaissance de la force de réaction du sol et de ses effets sur la masse d'inertie nous permet de mieux comprendre la manière dont les chevaux bougent. Et par conséquent, nous pouvons leur apprendre à se déplacer en adoptant une meilleure position et à être décontractés et souples. Comprendre la locomotion normale du cheval est un préalable afin de pouvoir reconnaître les changements dans les schémas du mouvement qui indiquent qu'un cheval boite ou qu'il souffre d'une maladie neurologique. Lorsqu'il récupère d'une blessure, les spécialistes du rétablissement utilisent des exercices ciblés afin qu'il puisse recouvrir un schéma de mouvement normal qui lui permettra une récupération totale. N'oublions pas enfin que quand on monte à cheval, nous augmentons la pression sur le dos de ce dernier, ce qui déplace son centre de gravité vers l'arrière. Alors le centre de gravité du cheval se situe environ à la jonction entre le garrot et la base de l'encolure, un peu avant la 12e côte. Grâce à son système nerveux très réactif, le cheval adapte donc son équilibre instantanément, compensant les gestes et les actions des cavaliers altérant son équilibre. Mais une mauvaise posture, des aides inappropriées ou un matériel mal ajusté peuvent à long terme entraîner des pathologies. Voilà, pour réaliser cette émission, je me suis penchée sur divers travaux dont la thèse de Camille Chevalier sur les dessins anatomiques du cheval, apport pédagogique et intérêt pratique en formation initiale dans les études vétérinaires, appareils locomoteurs et système nerveux, ainsi que sur l'article de Stacy Hawks sur le site The Horse, revenant sur les recherches du professeur Eli Clayton. Cette émission est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Messagers du Cheval.